C'est un réel plaisir que de me situer parmi vous à l'occasion de cette conférence sur la prophétie biblique. Merci pour les paroles de bienvenue prononcées par notre ami de votre part, le président de la séance, Jacques Sauzet. Et c'est une réelle joie que de me resituer dans ce cadre si agréable de la Costette. Ceci étant dit, pourquoi une conférence prophétique? Cela a-t-il lieu d'être véritablement? Certainement parce que le livre de l'Apocalypse nous y encourage en ces termes. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, ce qui est notre privilège en ce moment, et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et si le temps était proche, déjà du temps de l'apôtre Jean, à plus forte raison, nos temps à nous. Il faut dire que les derniers temps, nous dit le Nouveau Testament, les derniers temps ont commencé avec la venue de Christ sur cette terre, laquelle venue de Christ a été la dernière démarche de Dieu vis-à-vis de ce monde pour son salut. Et c'est à partir de là que les derniers temps ont commencé. Et nous vivons dans cette phase dernière des derniers temps. Nous en sommes persuadés. Et puis, l'apôtre Pierre, pour sa part, lui aussi nous encourage à sonder la parole prophétique en ces termes, en 2 Pierre 1, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin brille dans vos cœurs. » Voilà donc pourquoi une conférence prophétique. Et puis aussi une conférence prophétique parce que nous vivons des temps absolument exceptionnels. Est-ce que nous en avons conscience? Il me semble que non, très souvent. Alors, d'où précisément ce sujet, n'est-ce pas, en quel temps nous sommes? Les Romains, en leur temps, avaient su en quel temps ils vivaient. Vous savez en quel temps nous sommes, avait dit l'apôtre Paul aux Romains, en Romains 13, 11. Mais il nous semble que l'Église d'aujourd'hui ignore un peu les temps dans lesquels elle vit, et qui sont des temps, par certains côtés, d'une brillance absolument remarquable dans bien des domaines, mais aussi combien dangereux. Et l'Église évolue dans de tels temps. Il nous faut donc savoir comment vivre un témoignage pour Christ de façon évidente dans ces temps difficiles à vivre. En quel temps nous sommes ? L'apôtre Paul nous éclairera à ce sujet à partir de textes comme ceux d'1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Science, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Je signale au passage, tenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Je signale au passage que ces textes représentent une photographie de l'Église. et non pas du monde des derniers temps. De la génération dernière, certainement pas. Il s'agit d'une photographie de l'Église parce que l'apôtre dit que quelques-uns abandonneront la foi. Les païens n'ont aucune foi à abandonner. Ils abandonneront la foi pour autre chose, et ceci nous fait trembler d'entrée de jeu. Puis ensuite, un autre texte, cette fois en 2 Timothée, d'abord au chapitre 3, des textes auxquels, plutôt ce matin, notre frère Brillant a fait allusion. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ces temps-là, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Puis au chapitre 4, à partir du verset 3e, de cette deuxième épître, toujours à Timothée, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. » Littéralement en grec ici, « maître sur maître ». Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. En quel temps nous sommes? Il semble que nos temps amorcent un début d'apostasie, de façon tellement évidente. Mais quelqu'un peut-être dira-t-il, l'apostasie c'est quoi? Il importe donc que nous définissions ce terme de la façon la plus précise qui soit. L'apostasie, en général, consiste dans l'abandon de la foi, mais aussi dans l'abandon des valeurs fondamentales de l'existence. Ce qui est précisément notre cas, à l'heure qu'il est un peu partout dans le monde. L'abandon, par exemple, de cette valeur fondamentale de la famille, du couple, du mariage, bien entendu, et puis aussi d'autres valeurs que nous aurons l'occasion de passer en revue tout à l'heure. L'apostasie, donc l'abandon des valeurs fondamentales de l'existence, l'abandon de la foi, mais pour mieux saisir encore ce que veut dire ce mot, il importe d'en référer au Christ lui-même, lequel en Matthieu 5, 33, à propos de divorce, a usé d'un terme qui pourrait paraître étrange, justement celui d'apostasie. En Matthieu 19 également, à propos de la lettre de divorce, quand on était venu vers le Christ pour lui dire « Comment expliques-tu que Moïse nous avait autorisé une lettre de divorce et toi que dis-tu à cet égard ?» C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit, littéralement en grec, une lettre d'apostasie. Et je dois dire que ceci m'avait beaucoup étonné. L'apostasie étant une sorte de divorce, le divorce une sorte d'apostasie dans ce sens de l'abandon de l'autre, en quelque sorte. Le divorce, une apostasie morale et spirituelle des hommes vis-à-vis de Dieu, pour verser dans ce que l'on pourrait appeler le péché de Jéroboam, lequel consistait à jeter l'Éternel derrière son dos, pour autant qu'il m'en souvienne, en tout cas en 1 roi 12 et 1 roi 14. Mais il nous semble que nous soyons dans ces temps, mais en plein. Nos temps, le peuple français d'une façon générale, et puis le monde, où qu'il se situe sous quelque cieux que ce soit, ne veut plus de Dieu, lui tourne le dos pour autre chose, sous le prétexte d'une nouvelle spiritualité, d'une nouvelle religiosité, tout ce que vous voulez, excepté, n'est-ce pas, pour verser dans la recherche du Dieu véritable, celui de la création, le Dieu de la création, et celui de la parole de Dieu. L'apostasie, un divorce. C'est le divorce spirituel d'avec Dieu. Je rentre du Québec il y a tout juste quelques jours. J'ai pu vivre au Québec des temps exceptionnels voilà quelques courtes années. Un réveil qui a donné lieu à l'implantation d'une poussière de nouvelles églises un peu partout dans la belle province. Mais quelle déception pour ce qui fut de ce dernier voyage. D'avoir remarqué un coup d'arrêt à ce réveil et d'avoir, mais connu le Québec sous un tout autre visage, ayant versé, comme c'est notre cas en France, dans une amorce d'apostasie. Et au moment où je quittais le Québec, la grande question était de savoir si le gouvernement en place devrait ou non accepter le mariage d'homosexuels. Ils en sont là, les Québécois. Et je dirais même qu'ils nous ont dépassés au plan de la corruption sexuelle et sur d'autres plans également. L'apostasie, un divorce d'avec Dieu. Il faut dire qu'en France, ce divorce a été amorcé et qu'il continue, j'allais dire, de se poursuivre de façon inquiétante pour ceux qui, comme moi, évangélisent le pays. Et non seulement le pays, mais aussi d'autres pays francophones. Ils ont sûrement remarqué, comme c'est mon cas, le fait qu'on ne veuille plus entendre parler de Dieu dans notre pays. Ce que je crains le plus, c'est cette absence de crainte de Dieu qui se généralise de plus en plus. Moi, je ne veux pas vous effrayer cet après-midi, je ne suis pas un prophète de malheur, et pas même un prophète. J'en ai conscience, je suis un conférencier de l'Évangile, mais je vis mon temps, je perçois les choses de cette façon-là. Et je ne cesse de rencontrer ce genre d'opposition à Dieu un peu partout, dans le monde et en particulier dans notre cher pays de France. Ce que je crains le plus, c'est précisément qu'il y ait une sorte de retour de manivelle vers nous, de la part de Dieu, lequel peut-être voudra divorcer d'avec nous, comme il le fit dans l'Ancien Testament, vis-à-vis de son propre peuple. En ces termes, par exemple, en Ésaïe 6, 10, comment comprendre que ce Dieu qui est l'amour dans sa personne ait pu user de telles paroles à l'égard de son peuple par la bouche d'Ésaïe, son serviteur, « Rendons insensible le cœur de ce peuple !» Je crains que le Seigneur n'en arrive à parler de cette même façon vis-à-vis de notre peuple, pour lequel nous avons à prier de plus en plus. Et puis, le Seigneur de poursuivre, toujours en Ésaïe 6, 10, après ce que nous venons d'entendre, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point, rendons insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, de peur qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. Est-ce qu'il est possible qu'un jour Dieu se soit ainsi exprimé vis-à-vis de son peuple, non pas des païens? C'est un peu ce qui est à redouter, surtout au regard de cette apostasie en marche qui voudra bientôt mettre en avant celui que la Bible appelle l'homme du péché, lequel alors introduira sur cette terre l'apostasie véritable, tandis que pour l'heure nous ne parlons que d'amorce d'apostasie. Parce que selon un texte de 2 Thessaloniciens 2, apparemment, l'apostasie ne connaîtra réellement son plein essor ici-bas qu'avec l'avènement de l'Antichrist. Mais nous sommes donc déjà avertis qu'une pression diabolique exceptionnelle s'exercera à l'endroit de l'Église. Et comme l'a dit tout à l'heure, plutôt ce matin, notre frère, nous en sommes à l'heure qu'il est les témoins. Je peux vous dire qu'en ma qualité d'évangéliste, passant d'une dénomination à l'autre, presque sans discontinuer, je constate que l'Église réellement souffre énormément, qu'elle est en proie à des crises qu'elle ne connaissait pas il y a quelques courtes décennies. La pression diabolique sur elle étant réellement exceptionnelle, dans tous les domaines, sur tous les plans, nous en avons été avertis par l'apôtre en ces termes: esprit séducteur, doctrine de démons, faux docteurs, tout cela représentant, je le répète, une radioscopie ou une photographie de l'Église elle-même. Jamais je n'ai vu l'Église de Jésus-Christ autant divisée qu'aujourd'hui. Alors que pour faire face à cette pression diabolique exceptionnelle, elle devrait se serrer les coudes et réellement rechercher plus que jamais sa véritable unité en Jésus-Christ. Alors parlons-en un peu de l'unité de l'Église. Bien entendu, il y a vraie unité et fausse unité. Mais cette vraie unité de l'Église, le Seigneur en a parlé par exemple au travers de la parabole du cep, du vrai cep et des sarments. Et s'il est vrai que les sarments peuvent représenter les chrétiens fixés au cep, n'est-ce pas, au sein d'une église locale, ces mêmes sarments peuvent aussi représenter les différentes dénominations chrétiennes, avec chacune leur personnalité, leur propre dégagement, mais rassemblées autour du cep duquel elles tirent toute leur sève, leur existence. Et il faut voir là, j'allais dire, la métaphore de la réelle unité en Jésus-Christ des dénominations, lesquelles sont, j'allais dire, de personnalités différentes, qui ont leur propre dégagement à elles, mais qui se retrouvent en fait sur le cep, fixées sur lui pour recevoir de lui tout ce dont elles ont besoin. Il s'agit là du véritable œcuménisme. Mais il y a toujours à propos du cep et des sarments un faux œcuménisme, une fausse unité. Ces autres églises qui peuvent se mettre ensemble en dehors du seul cep capable de les unir et qui peuvent être, j'allais dire, unis par toutes sortes d'organismes mis au point par les hommes et qui n'ont absolument rien à faire avec le vrai cep, avec le Christ lui-même. Et ces autres sarments entourés de cordes ou de rubans sont destinés pour le feu, dit Jésus. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, eh bien, il est retranché, il est pour le feu. Tandis que tous les autres sarments qu'ils figurent, les chrétiens eux-mêmes, dans l'église locale, ou les églises en tant que dénomination fixées sur le cep, cela réalise l'authentique œcuménisme, l'authentique unité. Jamais vous ne trouverez sur un pied de vigne, sur un cep, un sarment semblable à un autre sarment. En tout point, ça n'existe pas. Or, beaucoup voudraient que nous passions tous dans le même moule pour nous ressembler jusqu'au bout. Ça n'existe pas. Dieu veut que nous gardions déjà en tant que chrétiens chacun notre propre dégagement, notre propre personnalité. Et puis, ce qui fait d'ailleurs la richesse de l'Église, et il voudrait aussi que nous gardions en tant que dénomination chrétienne chacune, notre identité propre, notre dégagement propre, etc. Mais que nous reconnaissions que nous sommes tous fixés sur un même cep. Ceci est tellement, tellement important. L'Église peut être aussi comparée à une armée, et elle l'est sur cette terre. Or, dans une armée en général, qu'il s'agisse de l'armée française ou d'une autre armée, il existe plusieurs corps d'armée. Il peut y avoir la Légion, par exemple, les parachutistes, le génie, il peut y avoir l'armée de l'air, il peut y avoir la marine, chacun ayant son propre uniforme à lui, n'est-ce pas? Mais quel que soit l'uniforme porté, tous représentent l'armée française et doivent travailler ensemble à la défense du pays. Se mettant à la disposition du président de la République. Mais si, par exemple, sous le prétexte d'uniformes différents, ces corps d'armée commençaient de se faire la guerre, mais c'est très exactement ce qui se passe dans l'armée de Jésus-Christ aujourd'hui de par le monde. Parce que d'épaulettes évangéliques différentes, nous nous tirons dessus. Est-ce que vous avez vu ça? Mais c'est la mort de l'Église. Je posais il y a peu de temps, par exemple, à un parterre de serviteurs de Dieu au Québec la question suivante. L'Église de Jésus-Christ a-t-elle aujourd'hui sur la terre vocation d'être prospère? Alors il y eut un remous là, dans la salle. Certains avaient opiné du bonnet, pour dire que oui, puis d'autres, pas du tout sûr. Comment cela, pas du tout sûr? L'Église de Jésus-Christ n'a pas vocation d'être prospère sur cette terre. En tant que corps de Christ, a-t-elle le droit de se présenter au monde comme étant malade? C'est très exactement le spectacle qu'elle offre aux hommes autour de nous. Voilà pourquoi on ne se presse pas au portillon. Vous savez que l'Église de Jésus-Christ est le seul organisme au monde sur la terre qui soit fait d'êtres humains, comme vous et moi, et qui soit réconcilié avec Dieu et entre eux. Vous savez ça? Je n'ai rien contre le Lions Club, ni contre le Club Méditerranée, ni rien contre d'autres clubs ici ou là. Mais qu'il s'agisse du Lions Club ou d'autres clubs, ils ne sont pas faits d'hommes et de femmes réconciliés avec Dieu, ni même réconciliés entre eux. L'Église est le seul organisme qui soit constitué d'hommes et de femmes censés être réconciliés avec Dieu, censés être réconciliés avec eux-mêmes. Et à cet égard, j'ai presque envie de poser la question suivante. Dites-moi, si le Seigneur devait revenir ce soir, nous n'avons pas de date, nous l'avons dit et redit, heureusement, bien heureusement. D'ailleurs, une expression du Christ à propos de date m'a fort étonné il y a peu de temps, en Matthieu 24, 42. Le Christ ayant dit, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir. Et nous savons que dans cette parabole, le voleur, c'est le Christ. Lui-même s'est comparé à un voleur, comme vous le savez, au moins à deux reprises déjà au livre de l'Apocalypse. En Apocalypse 3:3, voici je viendrai comme un voleur. En Apocalypse 15-16 ou 16-15, si mes souvenirs sont bons. Il s'est donc comparé à un voleur et dans cette parabole de son retour en Matthieu 24, là encore, il s'est comparé à un voleur. Si le maître de la maison, qui est précisément le prince de ce monde, savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts parce que le Fils de l'homme, le voleur donc, viendra comme le voleur à l'heure où vous n'y penserez pas. Mais c'est les premiers mots de cette métaphore qui m'ont étonné. Si le maître de la maison savait, en d'autres termes, si le diable qui est le maître de ce monde savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, voulant dire par là que le Seigneur n'a pas du tout voulu que le diable sache les coordonnées de son retour. C'est peut-être une des raisons qui ont fait qu'il ne nous en ait rien dit. Parce que s'il nous en avait dit quelque chose, nous qui sommes tellement bavards, il y a belle lurette, que le diable aurait appris la date du retour de Christ. Mais si le Seigneur devait revenir ce soir, si vous en étiez persuadé, convaincu, si par exemple il nous en avait donné la date, donc le 12 mai 1994, quelle serait votre première réaction si vous deviez l'apprendre maintenant? Alors, je n'ai pas dit qu'il doit revenir ce soir. Que feriez-vous? Je vous pose une colle, là. Je crois que la première chose que vous chercheriez à faire, c'est de vous réconcilier avec ceux et celles avec lesquels les choses ne tournent pas rondement. Parce que, en tant que chrétien, bien entendu, je suis persuadé que vous chercheriez d'abord cela. Voilà donc, en quelque sorte, une façon de concrétiser aujourd'hui même notre foi dans le Seigneur et dans son retour que nous croyons proche, mais pour lequel nous n'avons aucune date. Si donc nous constations que réellement nous étions en conflit avec l'un ou l'autre de notre dénomination, de nos frères, hein, ou d'autres dénominations, il nous faudrait donc le plus vite possible nous mettre en ordre avec eux pour aller nous réconcilier avec eux. C'est là l'enseignement de Christ qui nous fait savoir que lorsque nous sommes prêts à lui apporter notre offrande, eh bien, pour commencer, laissons-la devant l'autel avant de l'offrir pour commencer nous réconcilier avec nos frères, avec nos sœurs. Il est donc très important que nous nous recherchions les uns les autres, que l'Église soit réellement le lieu où doit se vivre ce que le monde hors l'Église ne connaît pas. Est-ce que c'est ce que nous vivons? Il me semble que la plupart du temps, le monde nous boude parce que il pense que ça n'est pas mieux dans l'Église que chez lui. Il n'est pas du tout attiré par l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, vivant ces temps d'amorce d'apostasie. Et c'est au sein d'une telle amorce d'apostasie que nous devrions vivre plus que jamais l'Église véritable, où que ce soit à Paris ou au Chambon ou sur le plateau ardéchois. Et pour commencer, dans une unité à toute épreuve, une unité glorifiant le Christ, l'honorant et lui rendant un puissant témoignage. Alors serrons-nous les coudes. Souvent je cite Daniel et ses compagnons à Babylone, n'est-ce pas, lors de cette église, de cet exil difficile qu'ils avaient connu. Leur première réaction avait été de faire équipe pour tenir le coup dans cette Babylone, prison aux barreaux d'or. Bien, notre première réaction devrait être la même. Nous serrer les coudes, faire équipe, nous aimer les uns les autres en nous respectant au niveau de nos dénominations. En tout cas, le Seigneur m'a appris à regarder différemment les dénominations, et ce à partir de ce ministère itinérant d'évangélisation qu'il m'a confié dans sa grâce depuis une vingtaine d'années. Et j'ai pu réellement trouver là un enrichissement considérable, parce qu'aucune église ne peut dire qu'elle est en possession de toute la vérité. Nous sommes friands de ce qui est nouveau et qui peut nous venir de droite, de gauche, peu importe, nous sommes prêts à le gober. Par exemple, nous en avons été avertis en ces termes par l'apôtre Paul en 2 Timothée 4:3. Les hommes auront les oreilles qui les démangeront littéralement. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Et que de fables aujourd'hui, dans lesquelles les hommes croient mordicus. Je prends par exemple la théorie de l'évolution organique. Je ne veux pas entrer dans ces questions-là, ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais vous savez qu'à l'heure qu'il est, au niveau, j'allais dire, des plus hautes instances scientifiques, on n'y croit plus. La théorie de l'évolution est battue en brèche. Mais on continue d'y croire parce que nous n'avons rien à mettre à la place. Mais c'est une fable. Et ce certain Jean Rostand, protestant de surcroît, avait pu dire en son temps, dans un livre que j'ai à la maison, la théorie de l'évolution est un conte de fées pour grandes personnes. Nous y voilà. Mais nous y croyons, les hommes détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Et puis encore, quand nous pensons aussi à cette croyance tout à fait erronée de la transmigration des âmes et qui fait fureur aujourd'hui en France. Oui, ce qu'il est convenu d'appeler la réincarnation, à laquelle il est beaucoup plus facile d'adhérer qu'à la croyance de la résurrection. La Bible ne nous entretient pas de réincarnation, mais de résurrection. Alors, à partir d'un sentiment, d'une impression, de déjà vu, de déjà rencontré, de déjà entendu, de déjà connu, on a bâti toute une doctrine, celle de la réincarnation, à laquelle j'ai failli croire moi-même, il y a peu de temps en Bretagne, parce que j'avais posé la question à l'auditoire, là. Croyez-vous réellement à cette doctrine de la réincarnation, de la métempsychose? Un homme avait levé la main, oui, m'affirmant qu'avant de devenir un homme, il avait été un cheval. Et il l'affirmait avec de tels arguments, en ruant dans les brancards, que j'avais failli le croire. C'est fou. Un monde prêt à tout gober. Par exemple, le phénomène du virus astrologique aujourd'hui en France. Quand nous pensons que 15 millions de Français consultent les astrologues et que le chiffre de la profession correspond à quelque 9 milliards de nos francs actuels, quand nous pensons aussi au phénomène de la voyance et qui attriste nos psys d'une façon générale, parce que le Français, alors qu'il est, préfère s'asseoir sur le banc d'un voyant, le divan d'un voyant, que sur celui d'un psy quelconque. Il y a peut-être des psys qui nous honorent de leur présence, qu'ils ne s'en voient pas du tout heurtés. Mais c'est la réalité, nos médias nous en ont informé il y a peu de temps. Nous sommes prêts à tout gober. Et puis, quand nous pensons aux extraterrestres, à E.T., mais c'est fou, ce que l'on peut croire dans les extraterrestres, dans les ovnis au point d'en être littéralement ovnibulé, c'est fou. Prêt à tout gober, excepté à gober, à recevoir la parole de Dieu, lancer une idée nouvelle, ça va marcher. Invité à revenir au témoignage ancien de la parole de Dieu, on va vous prendre pour fou. C'est bien ce qui caractérise nos temps. Pourquoi en France cet engouement pour ce qu'il est convenu d'appeler d'une façon générale les sciences occultes, qui connaissent un succès remarquable en venant ici hier. J'entendais à France Inter une statistique, le résultat d'un sondage qui affirmait que 6% des Français, plutôt 6 Français sur 10, excusez-moi, croient que Dieu existe, mais qu'il opère un mélange incroyable entre Dieu et la superstition, parce que l'autre chiffre qui a immédiatement suivi le premier est que les Français croient dans l'astrologie à quelque 61%. Et dans la voyance à quelque 50 et quelques pourcents. C'est vous dire à quel point Dieu reste vague dans l'esprit du Français. Et que sous le prétexte d'une nouvelle spiritualité, nous courons chacun dans notre direction. Le slogan étant le suivant depuis peu, à chacun sa vérité, avec pour toile de fond, n'est-ce pas, ce grand mot de tolérance. Ce grand mot de tolérance. Mais cette crédulité du français, à la limite démentielle, est compensée d'autre part par une incrédulité, elle aussi démentielle, dès que l'on s'aventure à parler de Dieu et de la parole de Dieu, au point que le révérend père Manaranche un jour a pu dire ce qui suit: l'homme moderne est prêt à admettre n'importe quoi, d'où cette crédulité démentielle. Il est incroyant ou malcroyant, plus il est crédule, plus il ricane devant le miracle et se laisse berner par les supercheries des charlatans. Il est sceptique devant les prophéties bibliques, mais 50 000 voyants sont là en France pour satisfaire sa curiosité et son inquiétude face à l'avenir. Voilà à peu près dans quel temps nous vivons. Crédulité démentielle, prêt à tout gober, n'importe quoi, pourvu que ce soit du neuf. Et nous versons de cette façon-là dans les religions orientales comme semble-t-il jamais précédemment. Mais pour ce qui est alors de Dieu, de la parole de Dieu qui est la vérité, on ne veut plus rien entendre. Et pourtant ce siècle, je dirais, est fameux, phénoménal par bien des aspects. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il traverse, à l'heure qu'il est, une cascade de révolutions qui le transforme comme jamais, là encore, sans précédent, dans toute son histoire. Et ceci peut rejoindre cette parole de Daniel 7, 25, à propos de l'Antéchrist: il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi. Voulant parler par là de changements absolument exceptionnels. Nous vivons, il faut le dire, le siècle le plus révolutionnaire de tous les temps. Jamais l'histoire des hommes n'a connu de tels changements depuis le commencement. Mais ceci au regard d'un événement assez considérable lui aussi, qui sera l'avènement du plus grand révolutionnaire de tous les temps et que la Bible appelle l'Antéchrist. N'oublions jamais que son apparition se fera, j'allais dire, à force de séduction considérable exercée sur les hommes en général où qu'ils vivent sur la surface de la terre. Ces quelques décennies, ces quelques dernières décennies ont changé le siècle de façon considérable. Et disons-le, parce que c'est vrai, beaucoup plus que les 20 siècles qui les ont précédés. Par exemple, nous n'avons pas de peine à penser que l'apôtre Paul, et puis Christophe Colomb, qu'environ 15 siècles ont séparé, avaient pu naviguer sur des navires, des bateaux à peu près semblables, faits de bois, tellement leur temps s'était ressemblé, tellement on avait peu évolué depuis l'apôtre Paul à Christophe Colomb, qui ont été l'un et l'autre de grands voyageurs devant l'Éternel. Mais si l'on comparait leur temps au nôtre, et si ces deux hommes pouvaient regarder à nos navires actuels, à nos bateaux de guerre faits de métal, hein, ils diraient quoi ? Fluctuat nec mergitur, n'est-ce pas ? Ça flotte et ça ne coule pas, sans y rien comprendre. Et s'ils regardaient à nos jumbo jets, grâce auquel je suis rentré de Montréal il y a peu de temps avec quelques 500 et quelques personnes à bord. Mais que dirait-il ? Combien nos temps ont changé en quelques courtes années ? Et nos temps continuent de changer très vite au point qu'il nous est si difficile de nous ajuster quelque peu, de les suivre nos temps. Moi, j'avoue franchement que bien que tâchant de me mettre à la page, il m'arrive d'être littéralement dépassé par l'évolution rapide de nos temps, sur tous les plans. Mais le moins qu'on puisse dire, et nous allons les passer rapidement en revue, nous sommes en train de passer par six grandes révolutions qui nous changent de façon considérable et, j'allais dire, auxquelles il nous faut être absolument attentifs. Surtout en raison du témoignage à rendre dans ces temps difficiles. Première révolution, la révolution spirituelle, ayant l'apparence de la piété, hein, a dit l'apôtre, mais reniant ce qui en fait la force. Cette révolution spirituelle, sous prétexte, nous le disions tout à l'heure, d'une nouvelle spiritualité, d'une nouvelle religiosité, voulant se situer au-dessus de tout ce qui existe d'institutions religieuses, sans vouloir s'y intégrer de façon définitive. Et pour résumer cette pensée, eh bien, nous en appelons à ce qu'il est convenu d'appeler le Nouvel Âge, dont j'ai fait un livre. Ce livre a donc ce souci de dénoncer ce faux Christ comme étant un faux prophète, en même temps que sa doctrine, mais bien malheureusement, il gagne un terrain considérable en France, comme vous le savez. La France est minée par le mouvement du Nouvel Âge à l'heure qu'il est. Nos compagnies d'assurance à l'heure qu'il est vous présentent cette nouvelle assurance du Nouvel Âge, hein, pour l'ère du Verseau. Vous l'avez peut-être reçu dans vos boîtes aux lettres, comme ce fut mon cas il y a peu de jours. Le Canada, pour ce qui le concerne, en tout cas le Québec, lui est littéralement infiltré par le mouvement du Nouvel Âge. Et il y a quelques courtes années, m'y trouvant pour l'Évangile, j'avais pu traverser toute une zone du Québec où l'on était invité en ces termes, vous entrez ici dans une région du Nouvel Âge dans laquelle vous pourriez vous installer pour être initié quant à ce mouvement qui est réellement le mouvement qui répond par excellence aux grandes aspirations de l'homme d'aujourd'hui. Attention au New Age. Alors j'en arrêterai là pour ce qui est de la révolution spirituelle, mais elle bat son plein. Nous avons constamment affaire avec elle. Pour dénoncer cette fausse spiritualité qui n'a rien à faire avec l'Évangile ni la foi dans le Christ Jésus. Et la deuxième révolution par laquelle nous sommes en train de passer est la révolution culturelle, laquelle a généré l'effondrement des valeurs fondamentales de la vie. Nous en disions tout à l'heure un mot à cet égard, sur un fond de droits de l'homme et d'humanisme et sous prétexte d'une liberté tous azimuts. Cette révolution culturelle est en train de générer la perte du sens de la dignité humaine, la perte du sens de la morale. Avec, par exemple, l'avortement, la banalisation de la vie. Et puis pour bientôt, je dirais, sous prétexte du droit à la différence, le droit à l'homosexualité. Le droit aussi à la mort, pour bientôt, par l'euthanasie déjà en marche dans certains pays. Et puis, je ne sais si vous l'avez su, mais la charte pour la défense des droits de l'enfant, j'en ai eu connaissance il y a peu de temps, et je dois dire que ceci m'avait terriblement inquiété. Je voudrais vous en lire quelques mots sur cette charte des droits de l'enfant. J'ai tellement de notes que, en tout cas, si je ne voyais pas, je ne trouvais pas ces notes, je pourrais en tout cas vous en dire un mot, parce que le message de samedi soir ira dans ce même sens. Mais sachez-le, sous prétexte justement de modernité, eh bien, bientôt vous n'aurez plus le droit d'influencer vos enfants dans une direction ou dans une autre. Il reviendra à vos gouvernements respectifs, j'allais dire, d'en avoir la charge. Et ceci dans une charte des Nations Unies qui vient d'être mise au point et dont vous avez eu peut-être connaissance, comme c'est mon cas. Et puis, il y a aussi cette révolution démographique. Dans notre Occident dit chrétien, nous ne voulons plus d'enfants. Nous connaissons une dénatalité dangereuse qui fait que nos populations vieillissent. Tandis que dans ces pays en voie de développement, la natalité plutôt est galopante, de telle manière que tout ceci engendre une déstabilisation démographique considérable qui donne le cauchemar à nos meilleurs savants sur ce plan. Ne nous étonnons pas de ce que nous soyons envahis d'immigrés qui cherchent à manger, qui cherchent un travail, etc. Mais nous le serons encore davantage dans les années qui sont droit devant nous, étant donné cette déstabilité démographique que nous sommes en train de connaître et qui, précisément, donne naissance à quoi ? À un racisme épouvantable, à un antisémitisme lui aussi horrible, et puis à d'autres problèmes comme ceux de la promiscuité, de la solitude, du suicide, etc. Tout ce que vous voulez, nous marchons au-devant de temps encore beaucoup plus difficiles que ce que nous connaissons, étant donné cette révolution démographique qui nous a donné de perdre tout sens de l'équilibre et de la mesure. Et puis il y a cette révolution scientifique sur laquelle nous passerons comme chat sur braise, étant donné le temps qui nous est imparti. Laquelle révolution scientifique, nous le disions tout à l'heure, par bien des aspects nous étourdit, mais qui par d'autres nous inquiète, parce qu'engendrant la perte du sens de l'éthique, nous ne savons plus jusqu'où ne plus aller dans le domaine de la génétique, de, du génie génétique, de la révolution biologique. Surtout à partir, par exemple, de ces prévisions de la biologie qui sont stupéfiantes par certains côtés, mais combien dangereuses par d'autres. Et puis aussi ce mariage, alors qui est étudié de façon sérieuse entre la biologie et l'informatique, et qui pourra bientôt mettre au monde des robots à visages humains. Vous en avez entendu parler. Alors que je m'intéressais à la question et que j'étais de passage à Montréal, il y a 2 ans, je prenais un repas avec l'un de mes neveux qui est justement à la recherche là-bas dans le domaine du génie biomédical. Alors je lui avais posé la question, mais crois-tu à un éventuel mariage entre la biologie d'une part et l'informatique d'autre part, l'électronique d'autre part? Mais il m'avait répondu, mais j'y travaille, c'est mon domaine. Et nous cherchons précisément à concrétiser cela afin de pouvoir mettre au monde de nouveaux robots à visages humains, capables de travailler de façon totalement indépendante de l'homme. Oui, et puis d'autres révolutions en tout cas, qui nous font perdre petit à petit tout sens de l'éthique et de la morale. Il y a cette autre révolution industrielle qui nous a fait perdre le sens de l'écologie, de l'environnement. Nous sommes littéralement en train de scier la branche de notre histoire sur laquelle nous sommes assis au plan de la pollution physique de notre environnement. Vous me direz, mais c'est un tableau difficile à supporter, mais je vis mon temps. Hein. Vous vivez le vôtre. Et pour terminer, cette révolution politique et économique par laquelle nous sommes en train de passer, sur laquelle nous reviendrons samedi soir, à propos de prophéties bibliques et nouvel ordre mondial. Autant de révolutions qui ne se font pas sans souffrance, sans douleur, sans grincement de dents, mais qui sont en fait les douleurs de l'enfantement d'un nouvel ordre mondial, au sein duquel nous vivons aujourd'hui et au sein duquel nous avons vocation de rendre témoignage, de porter l'évangile, le plus grand, le plus extraordinaire de tous les messages. Il est donc plus qu'urgent que dans cette conjoncture rapidement résumée, moi j'ai l'impression de ne vous avoir rien dit, j'ai pris tant et plus de notes, mais je continuerai samedi soir. Il est plus qu'important que dans cette conjoncture, nous portions au monde la bonne nouvelle, parce qu'en fait, où sont-elles les bonnes nouvelles de nos jours? Savez-vous que du temps du Christ, avant le Christ, après le Christ, dans ces empires, grecs par exemple, romains, il revenait aux esclaves de porter de bonnes nouvelles. Lorsqu'un général rentrait victorieux d'une bataille, d'une guerre, c'est à des esclaves qu'il confiait la bonne nouvelle de sa victoire pour la porter plus loin. À telle enseigne que le terme évangélisé en grec, la langue du Nouveau Testament, est très peu rencontré dans la littérature grecque d'une façon générale, parce que à la limite, ce terme revêtait un sens péjoratif, étant donné qu'il revenait aux esclaves d'être porteurs de bonnes nouvelles, et l'on n'aimait pas être esclave. Et il me semble qu'il en est de même aujourd'hui dans notre génération à propos des chrétiens. Le maître cherche des esclaves, mais des esclaves volontaires, des serviteurs qu'il aime réellement, pour être aussi porteur de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et souvent, il n'en trouve point. L'Évangile est laissé aux seuls spécialistes pour être porté plus loin. Mais c'est véritablement l'erreur fondamentale. Nous devrions tous être porteurs de la bonne nouvelle de l'Évangile, le seul message capable de changer radicalement l'homme, d'en faire un homme nouveau, capable de le sauver. Il n'y a pas de message plus grand que celui-là. Le plus grand message qu'une oreille d'homme puisse entendre aujourd'hui. Tel est le défi qui nous est lancé par le Christ lui-même, en présence d'une génération en plein bouleversement. Nous venons de parler d'être révolutionnaires, nous le sommes dans ce siècle. Mais il n'y a rien de plus révolutionnaire que l'Évangile. Capable réellement de changer l'homme autrement que par d'autres messages ou d'autres découvertes. Et nous sommes tous appelés à être porteurs de ce message. Voulons-nous nous rendre esclaves du Christ, serviteurs de Jésus, pour porter plus loin la bonne nouvelle du salut? Ce dont l'homme a besoin est contenu dans l'Évangile. Nous n'avons rien contre les dernières découvertes à partir du moment où elles ne viennent pas contre-pied, j'allais dire, du message de Dieu dans sa parole. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes réellement qui soient porteurs de ce message révolutionnaire de l'Évangile. Mais est-ce que nous sommes encore convaincus que l'Évangile est le message le plus grand qui soit, le plus formidable qui soit, le seul message qui réponde effectivement aux besoins les plus profonds des hommes et des femmes de notre génération? L'Église n'y croit plus, semble-t-il. Nous en frémissons. Quel défi au regard d'un siècle qui, à la limite, nous nargue, il faut le dire, en raison de ses conquêtes. Le Seigneur nous appelle, autant les uns que les autres, pour être porteurs de cette bonne nouvelle aux hommes de notre génération. Sommes-nous prêts cet après-midi à répondre à ce défi, en même temps qu'à cet appel? La question est posée à présent. Qu'allons-nous répondre? Ce ne peut être que oui ou que non. Eh bien, si réellement nous voulions répondre à cet appel du Seigneur, il importe que nous lui reconsacrions toute notre vie. En offrande d'amour, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je me livre à toi comme réellement ton serviteur pour être porteur du flambeau de l'Évangile. Le seul message qui tienne, qui vaille et qui sauve l'homme. Voulons-nous lui répondre de cette façon-là? Peut-être allons-nous observer un court moment de silence. Puis au moment où je le demanderai, après avoir réellement fait votre choix libre. Et si ce choix était réellement celui du oui. Et si cet après-midi vous vouliez réellement reconsacrer toute votre existence au Seigneur, après le moment de silence, vous pourriez un court instant vous tenir debout seulement. Puis ensuite, nous pourrons prier pour ceux et celles qui se seront tenus debout, s'offrant au Christ pour son service cet après-midi. Quelques instants de silence pour nous rappeler dans quel monde nous vivons.
en nous souvenant du défi qu'il nous lance. Et pour prendre cet engagement de nous faire esclaves de Christ, pour lui porter la bonne nouvelle du salut. Le seul message qui vaille, qui tienne, et qui puisse répondre à ses aspirations les plus profondes. C'est au Seigneur que nous donnons notre réponse. Et à présent que notre réponse est donnée, nous nous tenons debout. Quelques instants, oui Seigneur, je me livre à toi pour être ton serviteur et pour être porteur de ta bonne nouvelle au monde autour de moi tous les jours. Et maintenant vous pourriez vous tenir debout un court instant sans regarder autour de nous, les amis se lèvent, nous ne regardons pas, nous prions. Et peut-être nous revient-il de nous engager nous-mêmes pour cette bonne nouvelle de l'Évangile, maintenant.